L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 20 avril 2026. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin à 6h. Passez des 15 minutes à Bukavu et dans les territoires. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, au terme du round et pour parler des montrées en Suisse dans le cadre du processus de Doha, le gouvernement de la RDC et la délégation de l'AFC M23 s'accordent sur l'importance d'assurer une aide humanitaire vitale à la population de l'Est de la RDC, selon le communiqué conjoint rendu public. Et toujours dans l'actualité, des villages des groupements des Iralo, Moukoukou et Bouzi en territoire de Calais continuent de se vider de leurs habitants à la suite des affrontements récurrents entre les Wazalendo et les troupes de l'AFC M23, alors que le samedi déjà, des combats ont repris dans les villages comme Kusisa, Depo et Chambombo. Et en sport, championnat de la Lina Foot 2e division, la phase retour du championnat débute finalement le lundi avec entre autres affiches au programme l'OC Mungano face à ma commune de Lubero pour relancer la machine en vue de la qualification en Ligue 1. Voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin, Radio Mandeléo en plusieurs lettres, le journal en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Direction Genève, en Suisse, pour commencer cette édition du journal, le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 réalisent des progrès substantiels en vue de la conclusion, dans les jours qui suivent, d'un protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Les deux parties conviennent de l'importance cruciale d'assurer une aide humanitaire vitale à la population de l'Est de la RDC. Ceci ressort du communiqué conjoint entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux de l'AFC M23 signé au terme du round pour parler de Montreux. En Suisse, dans le cadre du processus de Doha, expédé Kialo.
Au cours des négociations, les parties se sont convenues de respecter toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et du droit international des réfugiés, selon le cas, et de se référer aux principes fondamentaux de la constitution de la RDC. Les parties se sont également convenues de s'abstenir de toute attaque, destruction, enlèvement ou utilisation inutile des biens indispensables à la survie de la population civile, y compris les denrées alimentaires, les zones agricoles destinées à la production des denrées alimentaires, les cultures et le bétail. Ceci est valable aussi pour les installations d'eau potable, les travaux d'irrigation, les infrastructures et la fourniture des services des télécommunications et d'énergie, ainsi que les installations hospitalières et scolaires, lit-on dans ce communiqué. Les parties se sont accordées de respecter et de protéger les acteurs humanitaires, y compris les intervenants et les bénéficiaires locaux, leurs biens utilisés pour des opérations d'aide humanitaire et de leur permettre d'opérer en toute sécurité. Elles se sont convenues, chacune en sa qualité, de faire tout ce qui est à son pouvoir pour éviter que l'aide humanitaire ne soit détournée ou pillée. Les parties se sont également engagées à ne pas influencer indûment la sélection des prestataires et des bénéficiaires, mais aussi de s'abstenir de toute action susceptible de compromettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans les territoires touchés par le conflit. En plus de ces engagements qui s'inscrivent dans le cadre humanitaire, les parties ont signé un protocole d'accord qui modifie le mécanisme de vérification du cessez-le-feu en incluant le M23. Le gouvernement, l'AFC M23 et la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs et Yergel expriment leur volonté de réaliser, dans un délai d'une semaine, les premières missions de vérification du cessez-le-feu grâce au soutien logistique de la MONUSCO, poursuit le communiqué conjoint. Dans un délai de 10 jours, les parties se sont engagées à procéder à la libération des prisonniers conformément au mécanisme signé le 14 septembre 2025, dans le souci de continuer à renforcer la confiance. Il s'agit de préciser que ces communiqués ont été publiés au terme des réunions qui se sont tenues du 13 au 17 avril entre les deux parties, à savoir l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC, avec la participation des États-Unis, du Qatar, de la Suisse, de la République togolaise, française et la Commission de l'Union africaine. Selon plusieurs sources, la prochaine étape des discussions sera consacrée aux points tels que l'ouverture des banques et de l'aéroport de Goma, toujours dans le cadre des mesures humanitaires pour soulager les populations affectées par la guerre. À ce stade, ces deux points semblent diviser les deux parties, chacune s'appuyant sur sa position en fonction des intérêts en vue.
Et je l'annonce au sommaire de cette édition du journal. Plusieurs villages des groupements des Irals au Moukoukou et Bouzi, dans la chefferie des Bouhavou en territoire de Calais, ne cessent de se vider de leurs habitants à la suite de l'insécurité et plus particulièrement les affrontements récurrents entre des combattants Wazalendo et les troupes de l'AFC M23. Déjà le samedi dernier, les affrontements ont repris dans différents villages comme Koussissa, Depo et Chambombo. Des sources locales rapportent que la psychose gagne toujours du terrain et plusieurs déplacés se dirigent vers Chanje, Numbi et ailleurs. Même situation dans les zones littorales comme Anyamukubi et Bouchouchou, où des déplacés traversent une situation calamiteuse, tout en saluant la présence de certaines organisations humanitaires qui identifient déjà les besoins des populations. Les défenseurs des droits humains et acteurs de la société civile dans la zone continuent de plaider pour des actions concrètes en faveur des déplacés et des familles d'accueil. On écoute à ce sujet Cédric Matiara, défenseur des droits humains, coordonnateur de la synergie des associations de lutte contre les antivaleurs dans cette partie du Sud Kivu.
Ces déplacés venant de Biriko, Ziralo, Miano, Mianda, Fuyang-Lagueur. Ils sont présents aussi ici à Bouchouchou, ce 18 avril 2026, aux environs de 17h. Nous alertons toujours les organisations humanitaires de venir dans toute urgence à l'aide à se déplacer, parce que c'est déjà presque la 4e, 5e vague de se déplacer et les familles d'accueil sont déjà totalement étouffées. Mais ils sont obligés toujours d'accueillir, de les accueillir dans chaque famille d'accueil. On peut y remarquer plus de 5 ménages. Vous comprenez que c'est déjà une grande difficulté au niveau des familles d'accueil. Se déplacer, non y a manger, ils ont besoin d'urgence de vivre et non vivre. Et il s'agit aussi des catastrophes. Mais toutefois, nous remercions VNGI International qui se sont donné corps et âme pour une formation sur la gestion des catastrophes.
Et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndéléo à Bukavu et dans les territoires de Calais. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre à présent. La bretelle allant de la Maison Blanche en passant par l'hôpital de Panzi jusqu'à la paroisse de Panzi au quartier portant les mêmes noms, en commune d'Ibanda, se dégrade davantage. Ce tronçon en terre battue est aujourd'hui jonché de nids de poules et d'eau d'âne qui perturbent la circulation des engins roulants, surtout à la tombée des pluies. Selon les habitants de Panzi qui ont contacté Radio Maïndéléo, l'accès à l'hôpital de Panzi est un véritable casse-tête, même pour les ambulances qui transportent les malades en situation d'urgence. Le conseiller communal d'Ibanda Boris Borauzima, qui habite Panzi, renseigne que cette bretelle est d'une portée communautaire notoire, car elle sert non seulement pour l'accès à l'hôpital de Panzi, mais aussi à la paroisse de Panzi et plusieurs institutions scolaires et universitaires. Boris Borauzima demande aux autorités de songer à la réhabilitation de cette bretelle, comme cela s'est fait sur certains tronçons, comme par exemple sur avenue Mbaki avec les travaux des pavages.
Ce quartier compte plusieurs routes secondaires qui nécessitent une attention particulière par rapport à sa réhabilitation. La route, la place dite Maison Blanche vers l'hôpital de Panzi, Solidarité, paroisse de Panzi Kamagema, c'est une bretelle très importante pour la population du quartier Panzi. Tenez par exemple, pour transporter les malades à l'hôpital de Panzi, les ambulances peinent à circuler dans cette route secondaire parce qu'il y a des nids de poules. Cette route est très oubliée par les autorités, alors que c'est une route très importante qui permet d'accéder à l'IEA. Il y a un auditoire qu'on appelle Faculté de médecine. Pour que les étudiants puissent accéder à la FACMED, il y a une route secondaire qui mène vers cette faculté, mais qui n'est pas réhabilitée.
Boris Borauzima au micro des radios Maïndéléo. Et les activités de réhabilitation du barrage hydroélectrique de l'hôpital général de référence de Kaziba ont été lancées le week-end dernier par la Fondation Panzi. Selon le les acteurs locaux, ces travaux visent à renforcer la capacité énergétique de cette structure sanitaire dans la perspective d'améliorer la prise en charge des patients. La société civile de Kaziba indique que le manque d'électricité constituait un obstacle majeur à l'accès aux soins de santé de qualité. Son président Joyeux Badesiré affirme que la population faisait face à plusieurs difficultés liées à la faible alimentation en courant électrique. Cette situation a été causée par la vétusté des installations du barrage construit depuis plus de 44 ans, indique Joyeux Badesiré, qui ajoute que la réhabilitation en cours prévoit la modernisation des équipements afin de rendre le système plus performant. Joyeux Badesiré en parle.
Nous sommes dans une grande joie au niveau de la communauté de Kaziba et dans toute la zone de santé entière de Kaziba. À l'hôpital de Kaziba, jadis, il y avait un grand problème par rapport à l'électricité. Il y avait trop de problèmes, beaucoup d'appareils ne fonctionnaient plus à cause des manques d'électricité. Mais aujourd'hui, il y a un bienfaiteur qui venait de répondre à notre requête. Nous remercions sincèrement le bienfaiteur. Nous remercions tout le monde qui nous a accompagné dans la démarche.
À cette occasion, plusieurs composantes locales, notamment les enseignants, les chefs des groupements, les organisations des femmes et des jeunes, des représentants de la société civile et ceux du pouvoir coutumier ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative. Et je vous prends au mur, Maudé Kéréza. 60% d'enfants vivant dans la rue à Bukavu y sont à cause du divorce ou de la désunion de leurs parents. 20% sont victimes d'accusations de sorcellerie. 10% s'y retrouvent à cause de la pauvreté extrême et 10% suite aux violences familiales. C'est les résultats d'une enquête rendue publique par Bloc Citoyen Amani et consultée par Radio Maindelo le week-end.
À en croire ces rapports, ces chiffres traduisent une crise sociale profonde, la fragilité des familles et certaines croyances qui exposent les enfants à l'exclusion ou encore à l'abandon social. Malgré ces conditions difficiles, poursuit ces rapports, les enfants concernés gardent espoir. Beaucoup souhaitent retourner en famille. D'autres espèrent être accueillis dans des centres d'encadrement, alors que plusieurs autres expriment le désir d'apprendre en métier pour assurer leur avenir. Les coordonnateurs de cette structure, Joshua Hassani, recommandent le renforcement de la médiation familiale, la sensibilisation contre les accusations de sorcellerie, ainsi que la création des centres de réinsertion pour favoriser leur intégration sociale. Et l'on parle dans cet élément.
Le phénomène des enfants en situation d'erri à Bukavu nécessite une attention particulière, étant donné qu'un enfant laissé dans la rue pourrait de toute façon devenir une menace sociale, mais si cet enfant est réintégré, il pourrait être un espoir pour toute une nation. Nous appelons ici les parents à bien vouloir privilégier surtout la médiation familiale et de ne jamais faire payer aux enfants le prix de leurs conflits. Nous appelons par ailleurs la société de bien vouloir faire en sorte que les croyances néfastes et protéger chaque enfant comme un membre à part entière de la communauté.
Il rappelle que la rue n'est pas un choix pour ces enfants, car ces derniers continuent de croire en un avenir meilleur.
Merci Omer Moudé Kéréza. Et la République démocratique du Congo poursuit la réorganisation de son secteur minier, en particulier dans l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or et des minéraux stratégiques. L'information a été livrée par Maître Joseph Kazibaziba, directeur général de DRC Gold Trading et vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, dans un entretien accordé le week-end à Forbes Afrique. Myriam Mufano.
Selon Maître Joseph Kazibaziba, l'État congolais, la GKMIN et d'autres partenaires publics sont actionnaires de cette structure. Il précise que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la formalisation du secteur artisanal et de la récupération du flux financier dans les circuits officiels. Il rapporte également une évolution du volume exporté en précisant que la RDC exportait auparavant environ 25 kg d'or artisanal par an. Avec la mise en place des DRC Gold Trading, plus de 10 tonnes d'or ont été exportées en moins de 3 ans. Concernant la structure du secteur minier, Maître Joseph Kazibaziba indique qu'il est composé de 10 segments, dont les mines industrielles et les mines artisanales. Les mines industrielles concernent principalement les cuivres et les cobalt, avec des unités de transformation localisées, notamment dans l'ex-Katanga, qui est concerné par l'or, la cassitérite, le coltan et la wolframite, principalement dans l'est du pays. Le directeur général de DRC Gold Trading indique que le pays s'oriente vers une transition de l'exploitation artisanale à travers une exploitation à petite échelle organisée. Parmi les défis relevés figurent les déficits énergétiques, l'insuffisance des infrastructures routières et certaines contraintes sécuritaires dans les zones minières, indique Joseph Kazibaziba. Celui-ci précise que DRC Gold Trading est une société publique chargée de l'achat, de la commercialisation et de l'exploitation de l'or, ici de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Il a pour mission d'assainir la chaîne d'approvisionnement et d'assurer la traçabilité de l'or artisanal.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal consacré au sport et à la revue de presse, le gouvernement congolais est appelé à octroyer des fonds de garantie agricole aux Congolais impliqués dans les secteurs agricoles. La vie est du député national Moudekere Zanamegabe Olive à l'occasion de la clôture de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau organisée à Kindu dans la province du Maniema. Il explique que la province du Maniema, à l'instar d'autres provinces de la RDC, regorge d'énormes potentiels dans les secteurs agricoles, mais c'est l'accompagnement du pouvoir qui pose encore problème. Pour Olive Moudekereza, une attention particulière devrait être orientée vers ce secteur pour booster le développement à tous les niveaux. Le député national Moudekereza Namegabe Olive en parle.
J'ai même plaidé pour les jeunes. Moi, je plaide pour les jeunes entrepreneurs, pour créer les millionnaires, pour créer les milliardaires. On vous donne un hectare, on laboure pour vous, on sème pour vous. Et les jours de récolte, on vous donne les fruits de récolte d'un hectare. Et c'est comme ça, et vous commencez par là. Il faut aussi faire cela. Il faut donner des crédits. Il faut que les pays puissent avoir une banque de développement agricole. Il faut avoir un fonds de garantie. On ne peut pas faire l'agriculture sans financement, sans crédit. Et l'autre chose, il faut supprimer les barrières non tarifaires. C'est-à-dire que c'est partout, à 100 km, vous avez plus de 20 barrières. Supprimer tout ça, aucun pays au monde peut se développer avec des barrières. Et moi, j'ai été vraiment épaté de ce que j'ai vu au Maniema. C'est ça, Congo Uni. C'est ça, le développement. Partout au Congo, Bandundu, Kasai, Katanga, Équateur, on a tout. Bois, café, maïs, on a les minéraux. Nous voudrons que demain, les touristes aussi commencent à venir ici. Il faut les routes, la sécurité. C'est ça, le développement. C'est comme ça que le Congo va devenir la locomotive économique de la RDC.
Olive Moudekereza au micro de Radio Maindelo et merci de nous suivre en direct au stade Van Nevel de Butembo au Nord Kivu sur le www.radiomaindelo.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la Radio Maindelo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La phase retour de la Ligue 2 de la Linafoot Zone STB s'ouvre ce lundi 20 avril dans un contexte particulier marqué par plusieurs réaménagements organisationnels. Les coups d'envoi effectifs de cette phase retour sera donné avec deux affiches au programme. L'AS New qui ouvrira les balles à 13h face au FC Intensel avant que l'OC Mungano ne défie l'AS Makomine à 15h. Deuxième au classement après la phase aller avec 16 points, Mungano a l'occasion d'exercer la pression sur les premiers, à savoir l'US Okozaki qui a 22 points. En les rapprochant davantage au point, une victoire offre un enjeu de positionnement à Mungano, mais elle pourrait aussi donner un bel élan au Chalalilé pour disputer favorablement tous leurs matchs de cette deuxième partie du championnat. Le match se joue au stade Van Nevel de Butembo. Initialement prévu dimanche 19 avril, la reprise a été légèrement modifiée avec des décisions importantes prises par l'organisateur. Parmi les changements, la rencontre entre l'AC Kapako de Beni et l'US Okozaki ne s'est pas disputée dimanche. Le club de Beni a obtenu un report après avoir introduit une requête. Autre tournant majeur dans cette phase retour, les retraits officiels de l'AC Brésil de la compétition. Conséquence directe, les matchs qui devraient l'opposer au Darin Club Virunga dimanche est simplement annulé. Mieux encore, conformément au règlement, tous les résultats enregistrés face à cette formation sont effacés, celle-ci étant désormais considérée comme non engagée dans cette édition du championnat.
La revue de presse Radio Maindelo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous Myriam Moufano, l'arrivée de la première délégation des migrants à Kinshasa et l'exposition des enfants aux effets du changement climatique en RDC font partie des sujets commentés par la presse le week-end dernier.
Débutons cette revue de presse par la presse africaine.net qui écrit « Une première délégation de migrants expulsés des États-Unis est arrivée à Kinshasa le week-end dernier, conformément à l'annonce du gouvernement congolais. Composée d'une dizaine de personnes, dont les ressortissants du Pérou et de l'Équateur, elle a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. Cette arrivée, poursuit ses médias, suscite de vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Certains acteurs de l'opposition manifestaient leur désaccord, allant jusqu'à organiser des protestations occasion pour alerter l'opinion publique sur cette décision. Par ailleurs, des organisations de la société civile dénoncent un manque de transparence autour de cette opération. Le gouvernement, de son côté, tente de rassurer en affirmant que la présence de ces migrants en RDC est temporaire, conclut la presse africaine.net. De son côté, Watoto News écrit qu'en République démocratique du Congo, près d'un enfant sur deux, soit environ 56 millions, sont exposés aux effets du changement climatique. Ces chiffres ont été présentés lors d'un atelier consacré à l'analyse du paysage climatique pour les enfants, soulignant l'ampleur de la vulnérabilité des plus jeunes face aux bouleversements environnementaux. Ces documents stratégiques, validés par différents experts et consultés par Watoto News, visent à mieux protéger les enfants en renforçant les politiques climatiques. La République démocratique du Congo, classée parmi les pays à haut risque climatique pour les enfants, subit régulièrement des catastrophes comme des inondations, la sécheresse, l'érosion et la déforestation. Ces phénomènes affectent directement la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à la nourriture, aggravant ainsi la situation des enfants, concluent ces médias. Bouclant cette revue de presse par le média Le Souverain Libre.info qui indique que les autorités locales de Mwenga s'opposent fermement aux ambitions de la société minière Stratego à Kitutu dans la chefferie de Wamuzimu. Réunis pendant trois jours, chefs coutumiers, leaders religieux et acteurs de la société civile, ils ont formé un front commun pour défendre les ressources naturelles de leur territoire et exprimer leur refus de toute exploitation jugée illégale. La communauté insistait notamment sur l'application rigoureuse du code minier de la RDC à chaque étape afin d'éviter toute exploitation opaque ou irrégulière du sous-sol. Ces autorités locales soulignent que la protection des intérêts de la population passe par la transparence et le respect des procédures officielles. Ils exigent néanmoins que toute activité minière obtienne au préalable les autorisations requises et se conforme pleinement aux lois en vigueur, conclut le média Les Souverains Libres.info.
Et ce communiqué, avant de clôturer complètement cette édition du journal, le collectif des écoles privées agréées du Congo, CEPACO en sigle, Coordination Provinciale du Sud-Kivu, se félicite de l'organisation de l'examen de contrôle en faveur des candidats à l'ENAFEP édition 2026 en provenance des écoles privées agréées membres réparties dans les quatre sous-coordinations qui composent la ville de Bukavu, dont la sous-coordination CEPACO Bukavu 1 avec trois centres de passation, au complexe scolaire Notre-Dame de la Paix Anguba, au complexe scolaire Shalom Anguba, au complexe scolaire Azma à Mungu. La sous-coordination CEPACO Bukavu 2 avec un seul centre de passation au complexe scolaire La Croisière à Kadutu. La sous-coordination CEPACO Bukavu 3 avec un seul centre au complexe scolaire Christ et Roi Sauveur dans l'axe Brasserie Bagira. La sous-coordination CEPACO Bukavu 4 avec deux centres de passation au complexe scolaire Denis Mukwege à Panzi et au complexe scolaire Uwezo Wetu à Panzi Bizimana. Outre les coordinateurs provinciaux du CEPACO, remercie tous les promoteurs et chefs d'établissement de l'air à soutien pour la réussite de cette activité qui vise à vérifier le niveau d'avancement des matières dispensées par les enseignants afin que ces derniers renforcent l'encadrement des candidats. Toutefois, il remercie en particulier les promoteurs dont leurs écoles ont été sélectionnées comme centre de passation du dit examen de contrôle pour leur accord. Enfin, il encourage tous les candidats ayant participé à cet examen de saisir cette opportunité en revisitant régulièrement la matière afin d'affronter l'ENAFEP 2026 avec confiance au mois de juin prochain. Ainsi fait à Bukavu, le 18 avril 2026, Natumaini Mwenebatu Anise, coordinateur provincial du CEPACO, signe ce communiqué. Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Au terme du round des pourparlers démontrés en Suisse dans le cadre du processus de Doha, le gouvernement de la RDC et la délégation de l'AFC M23 s'accordent sur l'importance d'assurer une aide humanitaire vitale à la population de l'Est de la RDC, selon les communiqués conjoints rendus publics. Et des villages des groupements des Irals au Moukoukou et Bouzi en territoire de Calais continuent de se vider de leurs habitants à la suite des affrontements récurrents entre les Wazalendo et les troupes de l'AFC M23, alors que le samedi déjà, des combats ont repris dans les villages comme Kusisa, Depo et Chambombo. Et en sport, championnat de la Lina Foot, 2e division. La phase retour du championnat débute finalement lundi avec, entre autres affiches, au programme l'OC Mungano face à ma commune de Lubero pour relancer la machine en vue de la qualification en Ligue 1. La mise en nom de Tessel Danissé à Konkwa à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur les www.radiomaïndéléo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.